Une émission proposée par Benoît Ruel. Seconde partie.
Et nous retrouvons le philosophe André Glucksmann à nos côtés cette semaine pour explorer, je cite là le titre de l'essai qu'il publie chez Plon, « Les deux chemins de la philosophie ». Le chemin parcouru par deux poids lourds de la pensée, d'un côté Socrate, de l'autre Heidegger, étant bien entendu, vous l'avez compris, que pour mon invité, le choix est fait entre l'inventeur d'une sagesse occidentale et déracinante qui finira par avaler la ciguë fatale en concoctant un suprême pied de nez aux convenances éternelles, et le nazi, paradoxalement adulé par toutes les universités du monde, qui meurt dans son lit. La philosophie n'est pas un dîner de gala, s'évertue à nous répéter André Glucksmann, ni un guide des bienséances, ni une panacée antidéprime. La philosophie est un champ de bataille, un face-à-face avec nos défis intimes et ultimes, le souci de la vérité et du mensonge, l'épreuve de la mortalité, le feu de l'amour, le pari de survivre. Heidegger crut, comme la plupart des engagés contemporains, s'intégrer dans une communauté, la nation, la classe, l'union sacrée des fidèles, découvrir les racines de la bonne entente, reconquérir une parole des origines qui ne mente pas et partager enfin le privilège du poète inspiré. André Glucksmann, lui, préfère et de loin la méfiance d'un Socrate qui soupçonne à la naissance du langage le parrainage d'un législateur ivre dont il nous faut désormais contrôler les possibles délires. Deux profils de penseurs, la philosophie médite au bord des gouffres, soit pour céder à leur fascination, soit pour en baliser et barricader les accès. Au quatrième round, à vous Glucksmann, personnellement, je vote Socrate. André Glucksmann, je l'ai dit avant la pause, vous expliquez que le match philosophique Socrate à Heidegger tourne finalement autour d'enjeux prosaïques et vitaux. Quatre pour être précis, penser librement, penser mortellement, penser amoureusement, penser pour survivre. Alors, un mot de ces quatre défis. Tout d'abord, penser librement.
Alors, penser librement, c'est se retrouver finalement seul. Vous savez, quand on parle du cogito de Descartes, le « je pense donc je suis », on oublie très souvent qu'avant le « je pense », il y a le « je doute ». Et le doute de Descartes recoupe ce doute premier de Socrate. Quand Socrate dit « au fond, l'oracle de Delphes dit que je suis le plus sage, mais enfin, ça serait quand même à vérifier », ça veut dire que tout à coup, il propose de prendre un recul fondamental par rapport à toutes les prophéties, à tous les oracles, même au plus prestigieux qui est l'oracle de Delphes. Beaucoup plus tard, 2000 ans après, Kant a au fond la même réaction. Il dit, quand Abraham entend une voix qui lui dit « tue ton fils », eh bien le tort d'Abraham, quand il élève son couteau sur son fils, heureusement il est arrêté, vous savez toute l'histoire, mais le tort d'Abraham, c'est de ne pas interroger la voix qui lui dit, enfin, qui lui recommande cet enfanticide.
Vous dites, pour commencer à philosopher, il faut s'étonner.
Il faut s'étonner, mais alors l'étonnement est le propre d'un peu tout le monde. Au fond, les contes, les mythologies sont déjà le produit d'un étonnement. Comment se fait-il que ? Mais l'étonnement philosophique, c'est s'étonner au second degré. L'étonnement philosophique, c'est se demander s'il y a une solution, alors que les mythologies toujours proposent des solutions, proposent des dieux sauveurs, proposent des méchants qui vous sont extérieurs. Non, la philosophie s'étonne de soi-même. Le philosophe s'interroge lui-même. Il se regarde dans un miroir, mais c'est vraiment pas pour s'admirer. Il ne dit pas « suis-je la plus belle ?» pour reprendre justement un conte. Non, ils disent « au fond, je ne me connais pas. Au fond, je peux me surprendre. Et au fond, ce qui peut me surprendre, ce sont mes erreurs, mes saloperies, mes meurtres, rêvés ou acquis. » Vous savez, Platon, qu'on dit toujours angélique, qu'on dit toujours axé sur le bien, le beau, le vrai. Eh bien, Platon dit « l'homme est habité par des rêves absolument inhumains ou cruels ». Par exemple, coucher avec sa mère, tuer son père, etc. il a fallu attendre 2000 ans pour que, en psychanalyse, Freud dise, mais oui, c'est malheureusement un peu vrai. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir. Ça ne veut pas dire que nous sommes un salaud fini. Ça veut dire qu'il faut se battre avec la saloperie qui nous habite.
André Glucksmann, vous avancez évidemment beaucoup d'idées, dont une ici. Vous dites, l'Occident introduit l'ébranlement, puisqu'on parlait de l'étonnement fondamental. Hein. L'Occident introduit l'ébranlement, les sociétés traditionnelles vivent dans l'éternité, sans un véritable pourquoi. C'est l'Occident qui introduit le questionnement explicite. Et vous avez à nouveau un beau chapitre avec un titre magnifique que je trouve qui aurait pu devenir le titre du livre, La solidarité des ébranlés.
Oui, alors merci pour votre lecture très très précise, parce que la solidarité des ébranlés, c'est le secret de la transformation de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que l'Europe était partagée entre l'Empire russe, au début dirigé par Staline, il y avait le rideau de fer, et puis il y avait l'autre Europe qui est devenue de plus en plus démocratique, parce qu'au début, ni au Portugal, ni en Espagne, ne régnait la démocratie. Mais enfin, petit à petit, elle s'est démocratisée, petit à petit, elle s'est décolonisée, ou du moins arrêter les guerres coloniales les plus épouvantables, dont la guerre d'Algérie, en ce qui concerne la France, particulièrement horrible. Donc elle s'est un tout petit peu démocratisée, c'est pas parfait, mais il restait cette séparation. Et la force de renverser le mur, c'était étrangement une force qui n'était pas militaire, qui n'était pas armée, qui n'était pas du style des insurrections tragiques, anticoloniale. La force, c'était la force de réclamer la vérité. Vous savez, Havel, qui a été un des grands dissidents, et d'autre part le président après de la République tchèque, Havel disait « ne pas vivre dans le mensonge ». Essayer de ne pas vivre dans le mensonge. Alors c'est quoi la solidarité des ébranlés? C'est ce que j'ai découvert à l'époque quand je suis allé un peu clandestinement soutenir les dissidents à Prague. Ils étaient de tous les avis, ces gens qui, bon, ils étaient chrétiens, pas chrétiens, de gauche, de droite, tout ce qu'on veut. Mais ils avaient une unité. Et cette unité, c'était le refus de vivre dans le mensonge, c'est-à-dire le communisme tel qu'il était. Il y a des professeurs de faculté qui ont préféré être laveurs de carreaux ou chauffagistes dans les grands immeubles plutôt que de continuer à enseigner des saloperies.
Alors André Glucksmann, premier défi, penser librement. Deuxième défi, apprendre à mourir. Alors dites apprendre à mourir, là, Socrate, quelle leçon?
Ben oui, Socrate, vous savez, il a bu la ciguë, c'est-à-dire un poison, parce qu'il était condamné par un tribunal d'Athènes. Il aurait pu fuir. Et d'ailleurs, dans le tribunal, il aurait pu demander pitié. Non, il était accusé de démoralisation de la jeunesse et puis de culture de faux dieux, etc. Mais démoralisation, c'était ça le problème. Or, Socrate ne démoralisait que parce qu'il posait des questions que les gens ne voulaient pas entendre, ou du moins que son jury, parce que le jury était très partagé. Mais finalement, il y a une majorité de gens qui reprochaient à Socrate de poser des questions qu'ils ne voulaient pas entendre, qui remettaient en question leurs croyances, qui remettaient en question leur statut. Et cette faculté de ce qu'on appelle parésia en grec, et Foucault en a très bien parlé. Mais cette faculté d'interroger sans pudeur, sans tabou, c'est la qualité propre de Athènes. C'est la qualité propre de la ville. Et il a fallu qu'Athènes soit démolie par une guerre épouvantable qu'on appelle la guerre de Péloponnèse, pour que finalement Athènes se renie en condamnant Socrate. Parce qu'en condamnant Socrate, elle condamnait ce qui était le secret de son art, la tragédie, ce qui était le secret de sa science, la remise en question de l'ordre du monde, ce qui était le secret de sa morale.
André Glucksmann, comment expliquer que Heidegger, qui a fréquenté les Grecs, enfin on ne va pas refaire l'histoire de la philosophie, mais toute la littérature grecque réapparaît à ce moment-là, notamment en Allemagne, n'a pas su trouver une véritable réponse à son être pour la mort, alors qu'il fréquente précisément les Grecs?
La réponse de Socrate, c'est une réponse très démocratique. Ça consiste à dire, mais au fond, c'est très bien que les gens ne sachent pas quand ils meurent, comment ils meurent, etc. Parce que là, nous sommes tous égaux devant la mort. Puisque précisément, elle frappe n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment.
Mais Heidegger, pourquoi il n'a pas...
Eh bien justement, Heidegger, lui, veut qu'on trouve son identité, son authenticité, dit-il, dans son être pour la mort. C'est-à-dire qu'il se figure qu'on peut être maître de sa vie parce qu'on est maître de sa mort. Et la réponse de Socrate, c'est que vous n'êtes jamais maître de votre mort. Et il y a même un mythe que raconte Socrate, qui est qu'au début, les gens savaient quand est-ce qu'ils allaient mourir. Et du coup, quand ils paraissaient devant les dieux qui les jugeaient au jugement dernier, les gens étaient complètement préparés, ils s'étaient pomponnés, ils s'étaient fait un curriculum vitae tout à fait honorable, ils s'étaient pardonnés à eux-mêmes et demandaient aux dieux de pardonner. Et les dieux étaient complètement pris par des enquêtes invraisemblables parce qu'il y avait masque sur masque. Et du coup, les dieux ont trouvé la solution. Il ne fallait pas que les mortels se préparent, commencent à se costumer, commencent à se grimer. Et que donc, il fallait que le hasard frappe. C'est ça, le fin du fin de l'humanité, c'est qu'on n'échappe jamais au hasard. Vous savez, un grand, très grand poète français a dit « Jamais un coup de dé n'abolira le hasard ».
Un poète que vous aimez beaucoup, Stéphane Mallarmé. Encore un mot sur ce défi, apprendre à mourir. Une très belle phrase aussi, bien sûr, qui peut sembler banal, mais au fond qu'il n'est pas, quand on vous lit attentivement, une vie, qu'on le veuille ou non, est un jeu avec le disparaître.
Oui, et du coup, la vie n'est ni aussi mauvaise, ni aussi belle qu'on le prétend, ce que Maupassant a dit à sa manière. La vie, c'est justement l'égalité avec tous dans le hasard, le risque, la faculté de se tromper et la faculté de se rendre compte qu'on se trompe.
André Glucksmann, troisième défi, apprendre à aimer. Pour Heidegger, vous en avez dit un mot très rapide dans la première partie de cette émission, l'amour est enracinement, alors que pour Socrate, c'est une philosophie du déracinement.
Oui, alors ça c'est peut-être compliqué et en même temps peut-être très simple. Vous savez, il y a une grande pièce de théâtre, la principale des temps modernes, c'est Roméo et Juliette. Et Juliette dit à Roméo, mais écoute, ton nom de famille, je n'en ai rien à fiche. C'est moi, c'est toi, mais pas nos familles qui s'aiment, en gros. Et ça, je crois que c'est fondamental. Le déracinement, la solidarité des déracinés, c'est précisément ça le suc de l'amour. Et tout le reste, c'est-à-dire quand on explique que l'amour, c'est de savoir ce qu'il faut faire, l'amour de l'élève pour le professeur, que l'amour, c'est la rencontre d'une tradition, les Français s'aiment entre eux, les Allemands s'aiment entre eux. Tout cela, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est des volontés intégristes. c'est des volontés de justement de ne pas courir de risques, de ne pas affronter l'inconnu.
Vous allez même jusqu'à dire que pour Heidegger, la langue est la maison de l'être. Est-ce que ça n'est pas plus discutable, entre guillemets, comprenez, plus critiquable? Parce qu'au fond, tous les exilés le disent, notamment les écrivains, le refuge suprême de ce qu'ils sont, ils le conservent dans leur langue.
Oui, mais à condition que cette langue, ils la remettent en question. Que cette langue, et c'est ça la littérature, ils estiment qu'elle est porteur aussi de mensonges. Comme dit Platon, en cela très socratique, elle est duplice. Et c'est ça le fond de l'esprit, de la philosophie et de l'amour, c'est de se sentir obligé de parler avec un instrument qui peut toujours déraper. Et ça n'a pas de sens d'écrire comme un écrivain si on ne pense pas que justement il faut se débarrasser de la doxa, comme disent les Grecs, c'est-à-dire de l'opinion préalable. Vous savez, Descartes dit « Nous avons tous été enfants avant que d'être hommes ». Et quand nous sommes enfants, nous avalons notre langue maternelle en croyant qu'elle dit le vrai et qu'elle ne ment jamais. Et c'est ça que Heidegger continue à penser, avec beaucoup de poètes d'ailleurs, mais chacun dans sa langue, ce qui est quand même assez drôle. Il dit à Heidegger, un Français, quand il pense philosophie, pense en allemand, doit penser en allemand. Eh bien non, c'est pas vrai. On peut philosopher dans sa langue parce que la philosophie, c'est d'abord la remise en question de cette législation première. Vous savez, se tromper, c'est confondre ses espérances, ses ambitions et la réalité. Et la langue, bien sûr, permet cela. Mais la langue permet aussi l'inverse. Permet de distinguer nos espérances et la réalité, par la question, justement.
Dernier défi, André Glucksmann, vouloir survivre. Et là, vous explorez un grand, grand thème, je dirais un thème presque moderne de la postmodernité, le nihilisme.
Oui. Alors là, le nihilisme, c'est un grand mot. Hein. Le pape, pour ne citer un grand homme, dit que le nihilisme, c'est le relativisme. C'est-à-dire ne pas savoir ce qui est bien, ne pas savoir ce qui est beau, ne pas savoir ce qui est juste. Moi, je dirais que c'est plus compliqué, parce que l'Occident a toujours été à distance de ces valeurs. Après tout, qu'est-ce que c'est être dissident? C'est savoir que la vérité peut être l'outil du mensonge, que la volonté de paix, ça peut être un instrument pour vous amener en guerre, de mobilisation, etc. Et ça, le XXe siècle l'a assez bien démontré. Donc, qu'est-ce que c'est que le nihilisme? C'est pas simplement le relativisme. C'est pas simplement être à distance des valeurs et ne pas être absolument convaincu qu'on sache tous ensemble ce qu'est le vrai, le bien, le beau, le juste. Les démonstrations abondent que finalement on se dispute. C'est précisément des objets de dispute et pas du tout des objets d'accord. C'est au nom du vrai qu'on se fiche sur la gueule. Donc, non, pas du tout. Le nihilisme, c'est pas l'absence du sens du vrai, relativisme. Mais c'est l'absence du sens du mal.
Vous dites le nihilisme accompli place sur orbite le principe de l'irresponsabilité universelle.
Ben oui, parce que c'est d'ailleurs le cas de Heidegger après la guerre, quand il s'est trouvé totalement innocent de ce que les nazis avaient fait. Mais pourquoi irresponsabilité? Parce que si vous n'avez pas le sens de ce qui est répugnant, de ce qui est cruel, de ce qui est indépassablement inhumain. Bon, alors, c'est pas très compliqué, hein. C'est la police qui se conduit mal dans un commissariat, c'est le massacre des innocents au Darfour ou ailleurs, etc. Enfin, vous avez des exemples tous les soirs au journal de 20 heures de cruauté, d'insupportables comportements humains. Bon. Mais si vous pensez qu'au fond, à chacun son idée du mal. Tout cela, c'est pas le bien qui est relatif, mais là, c'est le mal qui est relatif. que des gens peuvent égorger d'autres au nom de leurs principes, qu'ils peuvent refuser de dégorger au nom de leurs principes, que tous les principes se valent et que donc, qu'on égorge ou qu'on n'égorge pas, peu importe. Donc si vous n'acceptez pas ce sentiment d'amour élémentaire pour l'autre, c'est-à-dire de reconnaissance simplement que l'autre, ça ne doit pas se massacrer, si vous n'acceptez pas de sentir le rouge au front, votre acceptation fut-elle passive des massacres qui ont lieu dans le monde, si vous ne vous indignez pas, là, vous êtes vraiment nihiliste. S'indigner, c'est pas s'indigner à cause du bien qu'on a en tête, c'est s'indigner à cause du mal qu'on a sous les yeux.
À la fin de votre essai, vous discutez la maxime sans doute la plus populaire de Socrate, nul n'est méchant volontairement. Et vous dites très et trop simple.
Oui, tout simplement parce que bon, elle est populaire, elle est souvent très très mal expliquée. Parce que ça conduit, si vous voulez, à Pangloss. Hein. Si nul n'est méchant volontairement, personne ne fait le mal, tout le monde il est bon et il est gentil, etc. Ça, c'est une incompréhension de la phrase de Socrate. Ce qu'il veut dire, c'est que quand on est méchant, on n'est pas volontaire. C'est-à-dire que la méchanceté s'oppose à notre réflexion, s'oppose à notre capacité d'examiner les choses, s'oppose à notre capacité de dire vrai et de sentir vrai. Si vous voulez, quand vous êtes dans ce que les classiques appelaient l'imagination, c'est-à-dire quand vous confondez ce que vous aimez, ce que vous aimeriez qu'il soit et ce qui est, quand vous prenez vos désirs pour des réalités, là, de fait, vous êtes méchant sans le vouloir, mais vous êtes surtout contre la volonté, parce que vous ne choisissez pas entre le désir et la réalité.
Pourquoi un dernier chapitre, ou un avant-dernier chapitre, je ne me souviens plus vraiment, à propos de l'ironie ?
Mais parce que je crois que c'est fondamental. Si vous n'êtes pas ironique, et ça c'est vrai que beaucoup de gens ne le sont pas, c'est que vous êtes en confiance dans vos opinions et dans vos préjugés. C'est que vous êtes encore dans ce que Descartes appelle l'enfance. Et que l'ironie, c'est une distance pas par rapport aux autres, mais d'abord par rapport à soi. Et ça, il faut reconnaître que la grande comédie, mais aussi la grande tragédie, la grande littérature, c'est tout des arts ironiques. C'est-à-dire que quand on réfléchit sur le nazisme, comme Thomas Mann, qui est un grand écrivain allemand, il s'interroge sur ce qu'il a de commun avec les nazis, ce qu'il a de commun avec Hitler. Et il l'interroge évidemment ironiquement, c'est-à-dire à distance, mais il n'est jamais sûr de cette distance. C'est-à-dire que l'ironie, c'est « je sais que je ne sais rien, mais encore faut-il faire la différence entre savoir, ignorer et être dans cet état de recherche consistant à dire « au fond, je me suis trompé, mais je peux encore plus me tromper. »
André Glucksmann, dernière question. Au début de votre essai, vous constatez que la philosophie est à la mode, à tout le moins l'étiquette de philosophe qui est mise à toutes les sauces et particulièrement par les médias. Cela étant, n'est pas philosophe qui veut, je vous cite, « c'est très aimable de se proclamer platonicien avant la lettre en promulguant l'idée de beau ou de bien, mais qu'en est-il de l'idée de crasse, d'ordure et de rognure d'ongle ?»
Eh bien, écoutez, ça c'est du Platon. C'est ce qu'un vieux sage demande au jeune Socrate. Attention, c'est pas simplement l'apologie du vrai, du bien, des valeurs. Ça, vous la trouvez à l'UNESCO, vous la trouvez à l'ONU, ça n'a jamais rien empêché, ça n'a jamais rien appris. C'est de considérer la merde comme la merde. Et là, je suis grossier, mais enfin, après tout, c'est un des dialogues intitulé le Parménite les plus fins de Platon, où cela est dit. Il parle de rognure. Mais vous avez un autre exemple, un très grand livre qui a été assez peu utilisé en philosophie, alors qu'il est remarquable. C'est le Candide de Voltaire. Vous savez, il y a un tremblement de terre à Lisbonne. Un dimanche, les églises tombent sur la tête des fidèles. Et il y a quand même un type qui dit mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est parce qu'on ne veut pas voir, ce qui est quand même scandaleux, le typhon humain, la capacité humaine de ne pas voir qu'on ne veut pas voir, c'est le secret du XXe siècle.
André Glucksmann, merci. Personnellement, je ne sais pas si, comme vous le dites, Dieu s'affiche aux abonnés absents et si le diable se perd dans ses déguisements. Une chose est sûre, notre planète, elle tourne et pas toujours très rond. Et pour cela, il faut vous lire sans tarder. Je rappelle le titre de votre essai, Les deux chemins de la philosophie. Il est paru chez Plon, un livre où vous racontez notamment le sans-pouvoir et la solidarité, j'y reviens, des ébranlés. Vous souhaitez plus de renseignements ou tout bonnement nous écrire, eh bien je vous rappelle l'adresse de l'émission id@rfi.fr. À la console technique cette semaine, Alain Autret, puis à la réalisation, Marie-Noëlle Gindroux. Bonne lecture, très bonne semaine à tous.